Mesdames, Messieurs, chers collègues, c'est pour moi un très grand honneur et un privilège que de pouvoir témoigner devant vous par ma présence ici et par les quelques mots que je vais vous demander la permission vous transmettre. C'est donc un très grand honneur de témoigner de la dette intellectuelle, morale et affective que j'ai contractée pendant des années envers notre cher Jean-Pierre Vernant, inséparable pour moi de Pierre Vidal-Naquet qui m'a la première fois parlé de Vernant. Je disais tout à l'heure à un des collègues qu'il me semble très important d'avoir lu l'œuvre de Vernant. J'ai fait peut-être mieux, je l'ai traduite en roumain, car je suis professeur à l'université de Bucarest et c'est en cette qualité de professeur d'histoire ancienne que j'ai fréquenté l'œuvre de Vernant et que je l'ai mise entre les mains et sous les yeux de mes étudiants pendant les 30 dernières années. Mais après avoir lu, après avoir traduit Vernant, on découvrait tout d'un coup une dimension différente, essentielle et lumineuse en le rencontrant en personne. L'alchimie de l'écrit et de la parole de Vernant, de sa présence intellectuelle et de sa présence dans tous les sens du mot, était probablement le stimulant le plus important, le catalyseur de nos pensées et de nos façons de voir l'Antiquité et le monde contemporain. En limitant mes effusions, pour laisser le temps à des conférenciers beaucoup plus intéressants et plus savants, car leur hommage vient d'un vrai travail de relecture. Je prie M. Francis Proust, archéologue, historien aussi de la Grèce, puisqu'il a écrit et publié avec deux de ses collègues un volume intitulé justement « Archéologie historique de la Grèce ancienne », qui s'est intéressé à l'étude des gestes et à la pensée sur le corps, à l'armée et la société en Grèce ancienne, à l'économie et la société en Grèce ancienne, aux identités culturelles, et qui va nous présenter ici sa communication sur que vous voyez derrière moi, Vernant face aux dieux grecs. S'il vous plaît, monsieur.
Je voudrais remercier chaleureusement les organisateurs de ce colloque pour leur invitation à venir parler de Jean-Pierre Vernant, même si la tâche demandée est redoutable, parce qu'il est très difficile en fait de relire Jean-Pierre Vernant. Si la lecture d'une telle œuvre a ouvert pour beaucoup d'entre nous des champs d'investigation nouveaux et éclaire aujourd'hui des pans entiers de la recherche sur la Grèce ancienne, sa relecture oblige à une mise en perspective par rapport aux acquis du passé et exige une distance rétrospective. Relire une œuvre, c'est s'en déprendre, pour mieux la reprendre de l'intérieur. Or, pour établir une telle distance avec le travail de Vernant, il faut du temps, et je ne suis pas certain que cette œuvre, tout juste ponctuée par la disparition de son auteur, autorise d'ores et déjà de porter ce regard en arrière, au risque de tomber dans la géographie. Les propos qui vont suivre n'ont d'autre ambition que d'aborder un aspect particulier de son travail et d'en mesurer la portée historique et archéologique, mais aussi les limites. Je voudrais revenir sur le corps des dieux. Dans un texte lumineux qu'il a publié dans le volume collectif consacré à cette question de l'époque antique à l'époque moderne et codirigé avec Charles Malamud, Jean-Pierre Vernant a synthétisé quelques-unes des grandes idées qu'il a développées tout au long de sa carrière sur la représentation du divin en Grèce ancienne. Il défendait la thèse que le corps, chez les Grecs, n'était pas cette donnée matérielle que nous autres modernes opposons au spirituel, mais que s'ils avaient contribué à une objectivation du corps, ne serait-ce que par la pratique médicale, il existait aussi un lien du corps avec le divin, et la corporéité grecque ignorait en grande partie la distinction âme-corps. Le corporel, chez l'homme grec, recouvre tout autant des réalités organiques que des inspirations divines, et ainsi se réfère à différents plans. Vernant nous a montré comment formuler la question sur le corps des dieux. Ce n'est pas se demander comment les Grecs ont pu affubler leur divinité d'un corps humain, mais bien rechercher comment fonctionne cette corporéité symbolique qui permet de penser aussi bien le contact entre hommes et dieux que leur séparation, le rapprochement de l'humain et du divin comme leur incompatibilité. Le corps divin est l'instrument d'une présence parmi les hommes, d'une immanence, tout autant qu'il signifie une inaccessibilité. Partant des limites, des insuffisances, des inadaptations du corps humain mortel, tels que les Grecs les recensent à longueur de texte, Vernant a ainsi pu dresser le modèle d'un corps qui s'en démarque et s'en dégage par une série d'écarts, de dénégations successives, afin de constituer ce qu'il appelait un corps épuré, une idéalité du corps, incarnant les efficiences divines et les valeurs sacrales. Même ce que le corps humain recèle de positif, comme vitalité, énergie, pouvoir, les dieux le possèdent sans restriction, un état supérieur. Vernant concluait par cette loi invariante dans le fonctionnement du corps divin. Les dieux grecs ne sont pas conçus à l'image du corps humain, mais c'est le corps de l'homme qui renvoie de manière fugitive au modèle divin comme un reflet renvoie à la source de lumière. Les dieux sont revêtus d'un corps lumineux dont les éclats parfois se retrouvent dans le monde des humains. L'objectif du Kouros, comme celui des chants louangeurs qui exaltent les hauts faits des héros, est de conserver la mémoire de ces éclats qui, un temps, ont brillé dans le corps de ceux, justement, qui en sont porteurs. Ils confèrent à des créatures éphémères, disparues sur le champ de bataille ou évanouies après le concours sportif, la permanence d'une beauté immortelle, la stabilité d'une gloire impérissable. La sculpture et la poésie offrent aux humains le moyen de s'approcher un peu plus des dieux, de leur surcorps splendide, qui, eux, possèdent cette constance de beauté et de gloire à tout jamais. Et ajoute Vernant, ce surcorps n'est pas loin du non-corps, sans pourtant le rejoindre. Véritable emblème du dieu, il ne bascule jamais dans l'absence de corps, car tout le polythéisme grec confie aux représentations divines le soin d'exprimer cette tension fondamentale entre le caché et le montré, entre le matériel et l'immatériel, entre l'inerte et l'efficient. En définitive, ce qu'a révélé Vernant, c'est bien le fonctionnement d'un corps symbolique, parce qu'il est un corps ambigu. Tel est sommairement résumé l'acquis de son analyse. En renversant le rapport entre corps humain et corps divin, en reposant sur de nouvelles bases la question de l'anthropomorphisme grec dans la représentation des dieux, Vernant a dégagé un modèle de fonctionnement, une structure particulièrement dynamique et féconde pour qui étudie les images divines. Ces analyses, publiées en 1986, étaient préparées par toute une série de cours au Collège de France, prononcés après 1975, sur l'idole, la figure et les masques, ainsi que par plusieurs articles antérieurs encore, publiés à partir de 1965. Par le corps des dieux, on plonge en fait aux racines du programme que Vernant s'était fixé à lui-même dès la fin des années 50. Comme il explique dans l'avant-propos du livre « Figure, idole, masque », il avait projeté d'écrire un ouvrage sur le polythéisme des Grecs dans une perspective de psychologie historique. La première partie aurait pour titre « La nature des dieux », la seconde « La société des dieux » et la troisième « La figure des dieux ». Et c'est justement par cette dernière partie qu'a commencé Vernant, sans pourtant aller jusqu'à sa publication complète, faute sans doute d'une formulation systématique. Le problème n'en a pas moins très régulièrement accompagné ses recherches pour aboutir à l'article sur le corps des dieux, qui apparaît rétrospectivement comme un point d'orgue dans le cheminement de cette réflexion. Par la confrontation du corporel et du divin, Vernant n'a cessé d'interroger la manière dont les Grecs rendaient le dieu présent en l'actualisant dans une image qui lui sert de réceptacle et en même temps lointain, en suggérant par cette même image la distance qui sépare le dieu des êtres d'ici-bas. Toutes les thèses de Vernant sur le colossos comme substitut, sur l'image du mort comme double du corps, disparu, découlent finalement de ses conceptions sur le corps divin qu'il a formulées comme bouquet final dans l'article sur le corps des dieux. La méthode employée par Vernant pour traiter ces représentations est la même que celle qu'il emploie pour aborder les autres sources du monde grec. Il n'a pas pour ambition d'atteindre une connaissance totale du polythéisme grec, mais seulement d'extraire des constantes et des invariants d'une apparente diversité des formes et des matériaux qui semblent déborder les efforts d'observation et description de l'historien. Loin de reprendre à son compte les ruptures traditionnelles de l'histoire grecque, déclinées selon une tripartition aussi abstraite qu'inutile en période archaïque, classique et hellénistique, Vernant a tenté de cerner des phénomènes de corrélation entre certains aspects et à certains niveaux dans les sociétés de la Grèce ancienne. Par exemple, prenant position face aux définitions académiques sur le symbolisme religieux, qui défendent la thèse de la perfection de l'art grec et de la nécessité de l'anthropomorphisme de la statue grecque pour figurer le divin, ainsi que l'idée d'un progrès continu de la pierre brute à la représentation animale ou monstrueuse jusqu'à la figuration humaine des dieux, Vernant s'estime libre de ses présupposés et ne postule aucun progrès. Le questionnement de Vernant veut dégager les raisons qui ont conduit les Grecs, selon les moments, à privilégier telle forme plutôt que telle autre, pour telle ou telle catégorie de dieux. Plus que les étapes, sa pensée invite à comprendre les formes, les niveaux multiples du divin. Ainsi convoque-t-il aussi bien les pierres aniconiques que les couroilles, les stèles que les statues en ronde bosse, la statuaire que la poésie de Tyrtée, la poésie que des textes de Pausanias, par exemple sur l'Eidolon d'Actéon. Hors de toute linéarité historique, l'objectif est de mettre en évidence ce qui peut s'apparenter à des structures. Le corps des dieux, en raison de sa fonction quasi totémique, qui est de différencier et d'ordonner les statuts divins et humains, constitue un objet particulièrement favorable pour déceler les jeux d'opposition propres à la religion grecque. En étudiant la représentation du divin, Vernant n'avait pas d'autre but que de mettre en lumière un aspect de ce qu'il appelait l'homme grec. Les représentations divines se sont d'autant mieux prêtées à son analyse qu'elles appartiennent à des sociétés décrites depuis Fustel de Coulanges comme dotées d'une forme d'organisation stable, ou en tout cas qui tend constitutivement à la stabilité, je veux dire la polis. La cité grecque se distingue par sa capacité à absorber les perturbations introduites par l'événement avec un minimum de déformation. En outre, les activités de ces sociétés, à l'instar de celles des sociétés primitives, sont limitées et intégrées les unes aux autres. Le divin ne se disjoint pas du politique, de l'économique, du social, etc. Comme le disent les anthropologues à propos des sociétés primitives, on observe tout aussi bien une résistance au changement qu'une limitation de la complexité. La lenteur des transformations et la taille réduite de ces sociétés permettent de privilégier les modèles mécaniques sur les modèles statistiques. Les ruptures historiques dans les travaux de Vernant ne sont pas légion. On peut en dénombrer deux, l'une inaugurale, l'autre terminale. La première est exposée dans les origines de la pensée grecque, avec la chute des palais mycéniens et l'avènement du mésone, du milieu, pierre fondatrice de l'espace et du débat politique de la cité. Une forme inédite en Méditerranée d'organisation collective vient structurer en profondeur la vie des communautés grecques au point de donner naissance à une rationalité nouvelle. On constate d'ailleurs que c'est aussi à cette époque que se constitue, selon Vernant, un répertoire d'images sous l'influence de modèles orientaux, une palette de figures, l'élaboration d'un premier langage plastique, je cite Vernant, comme à partir d'une table rase. La seconde rupture est développée dans l'individu, la mort, l'amour, avec l'avènement de l'individu, plus exactement de la personne. Vernant défend l'idée d'une certaine convergence entre la philosophie grecque et la religion chrétienne au 2e, 3e siècle après Jésus-Christ, qui aurait autorisé le développement d'une définition moderne de l'identité en s'appuyant sur une personne intérieure qui fait de tout individu un être moral. Corrélativement, là aussi, Vernant plaçait l'avènement d'un nouveau statut des images, moment où la représentation divine, au lieu d'être définie comme imitation de l'apparence, est interprétée en même temps que traitée plastiquement comme expression de l'essence. Entre la naissance de la cité et celle d'un souci de soi, pour citer Foucault, se constituerait en Grèce un espace historique relativement homogène dans son mode de fonctionnement. Et c'est dans cet espace qu'il s'agit de dégager quelques invariants sur le polythéisme grec. Par la définition de ces deux limites mêmes, Vernant montre qu'il reste historien fondamentalement. Il a pris soin de délimiter le champ, il n'a jamais prétendu l'excéder pour formuler des hypothèses sur une structuration universelle des religions polythéistes. Mieux, à l'intérieur même de cet espace grec, il n'y a pas d'universalité sans reste, de système définitivement clos. Vernant, en quête de son homme grec de façon asymptotique, s'en est toujours tenu à l'étude d'objets prélevés dans les sociétés grecques qui soient susceptibles de dégager quelques modèles de fonctionnement, sans prétendre pour autant soumettre toutes les autres données à ces modèles. Le corps des dieux a été l'un de ces champs où des connexions ont été possibles, où des mises en relation de domaines a priori disjoints et distincts ont été révélées par l'analyse, mais nulle part on observe de généralisation. Vernon, encore une fois, reste un historien, il n'est jamais un philosophe, et les structures qu'il met au jour ont un champ de pertinence circonscrit. Pourtant, cette analyse du corps des dieux soulève une difficulté dans l'œuvre de Vernon, car il ne s'est pas contenté de définir un modèle de fonctionnement du corps des dieux. Il a aussi repris à son compte des ruptures dans son histoire. Les cours du Collège de France consacrés à la représentation du divin, mais aussi certains articles que j'ai cités, révèlent en effet ce qu'il faut bien appeler une contradiction par rapport aux thèses défendues dans l'article sur le corps des dieux. Car, dans le même temps qu'il établit quelques grandes lignes invariantes dans le fonctionnement du corps divin, tel qu'il est représenté, par exemple, dans la statuaire, il reprend à son compte une césure que des générations d'historiens de l'art ont établie depuis Winckelmann et que l'on a appelée sous divers noms, miracle grec, style sévère ou encore processus de rationalisation de l'art grec. Vernon a décrit cette rupture par une formule bien caractérisée. La statue est représentation en un sens nouveau. Libérée du rituel et placée sous le regard impersonnel de la cité, le symbole divin s'est transformé en une image du dieu. Fin de citation. Je voudrais revenir moi aussi sur ces images après Richard, donc tout à l'heure, même si je ne vais pas, contrairement à lui, m'apesantir sur l'aspect philosophique, mais je vais plutôt insister sur le côté historique de cette formule. Le corps symbolique donc est devenu un corps imagé. Que font-ils comprendre exactement ? Vernon part du constat que pour présentifier l'invisible, les Grecs ont élaboré par des voies diverses et complexes une catégorie historique, une construction figurative spécifique qui aurait permis d'actualiser dans le monde d'ici-bas une puissance divine. Il s'agissait de créer une représentation symbolique capable de signifier cette puissance, de la rendre présente aux yeux des hommes et par une tension toute dialectique de l'éloigner aussi irrémédiablement. Vernon utilisait l'exemple d'Exoana pour montrer le cadre rituel qu'implique ce symbole. L'idole est faite pour être montrée et cachée, promenée et fixée, vêtue et dévêtue. Attaché à la définition du Xoanon comme forme immobile et figée, il soulignait combien ces rituels permettaient d'animer le dieu de façon symbolique lors des processions et de toutes les actions festives où sa présence était requise. Les communautés s'appropriaient ainsi l'idole, qui de ce fait n'exprime pas la puissance divine de manière abstraite, mais en tant qu'elle est maniée, utilisée par des groupes de la cité comme instrument de prestige social. Or, cette catégorie historique a subi une transformation radicale. Le symbole s'est transformé en une image, produit d'une imitation fidèle et illusionniste de l'artiste. Avec l'avènement du temple, qui enracine la représentation divine dans une habitation construite par toute la cité, elle serait moins impliquée dans le rituel, elle aurait plutôt désormais pour fonction de manifester, aux yeux des citoyens, la présence du dieu. La statue cultuelle finit par n'être qu'une apparence, son corps un reflet de l'invisible. L'anthropomorphisme aurait pour corollaire l'avènement d'une nouvelle conception du divin, où les valeurs sacrales trouvent le mieux à s'exprimer dans la beauté du corps exposé au regard de tous. Entre 530 et 480, le processus est accéléré et les exigences d'un anthropomorphisme rigoureux ont fini par régenter les principes de la représentation des corps. De symbole, le corps du dieu est devenu une image. Nous avions cru établir par l'étude sur la représentation du corps divin un schéma de fonctionnement du polythéisme. En fait, nous n'en avions qu'une étape. Si la formulation pour décrire cette rupture est de Vernon, ces présupposés ne sont pas de son invention et ils renvoient en fait à toute une tradition archéologique bien déterminée. Elle puise en effet dans un postulat hérité de la tradition académique qui, depuis le XVIe siècle, la lecture des philosophies de Platon et Aristote, postule que, dès ses origines, l'art grec a pour finalité la mimésis, l'imitation de la nature. Dans une telle perspective, les représentations de la période archaïque ne sont regardées que comme le reflet d'une évolution générale menant d'un schématisme primitif à la perfection des statues de l'âge classique. Avec les prémices de l'art sévère, à la fin du VIe siècle, se serait jouée une révolution déterminante, puisqu'aux stylisations imparfaites et maladroites des périodes antérieures aurait succédé une correcte représentation du corps humain, strictement ajustée aux canons anatomiques et formels procurés par la nature elle-même. Entre le Croissos d'Anavissos et le supposé Poséidon du Cap d'Artémision, il y aurait une césure, un véritable processus de rationalisation qui aurait engagé les artistes grecs à se conformer aux domaines immédiats de la nature humaine pour représenter les dieux. Cette révolution de la représentation aurait entraîné plusieurs conséquences. Les grands types statuaires de l'archaïsme grec, dont les deux plus célèbres sont le Kouros et la Corée, auraient alors laissé la place à des figures divines, à la fois plus diversifiées dans leurs formes et leurs attitudes, et plus unifiées aussi, puisqu'elles se réfèrent toutes à un seul modèle, le corps humain, tel qu'il se présente aux yeux du sculpteur. À la permanence des grands schémas typologiques, qui paraissaient d'autant plus immuables que des philosophes comme Platon les compare aux modèles égyptiens, succède un accéléré des innovations figuratives qui emporterait ces figures divines dans une surenchère de l'exactitude, dans une quête toujours plus exigeante des effets de réel dans leur présentification par l'image. La reprise à son compte de cette césure historique me paraît importante dans la pensée de Vernant, et ce pour plusieurs raisons. Tout d'abord, il est très intéressant que ce soit l'image qui soit porteuse d'une telle rupture. Encore une fois, les analyses de Vernant appliquées aux sociétés de la Grèce ancienne ne livrent pas d'ordinaire de transformation historique de ce type. Les mythes grecs, l'univers des dieux, la pensée technique, la notion si problématique de travail, pour ne citer que quelques-uns des champs d'investigation de Vernant, fournissent au contraire des lignes continues et leur système de fonctionnement se vérifie tout autant à un bout qu'à un autre de cet espace et de cette histoire des cités grecques. Pour les représentations du corps des dieux, en revanche, les structures et les connexions révélées par Vernant ne sont valables que pour un temps, avant 500, et ce sont d'autres structures, d'autres connexions qui sont censées prévaloir ensuite. Il le reconnaît lui-même dans le petit paragraphe d'introduction du chapitre 3 des résumés de ses cours du Collège de France à propos de la figure des morts. Il affirme poursuivre son enquête sur, je cite, « la figuration du mort au cours du VIe siècle et sur sa place dans l'élaboration de la catégorie de l'image en Grèce ancienne ». Au cours du VIe siècle, je souligne, les notations temporelles dans l'œuvre de Vernant sont rares pour mériter justement donc d'être soulignées. En ce sens, le passage d'un corps symbole à un corps image équivaut à un véritable événement historique. Il s'agit d'en bien mesurer la portée. Ce serait faire un mauvais procès à Vernant que de l'accuser de reprendre à son compte les théories évolutionnistes du XIXe siècle sans plus ample procès. En développant une anthropologie historique, Vernant prend bien soin de mettre à distance toute téléologie historiciste fondée sur des généralisations de type évolutionniste qui assignent des lois de transformation aux sociétés de la Grèce ancienne. Il s'est toujours refusé à rien conclure qui ne soit étayé par les données précises et des matériaux vérifiables. Les systèmes de représentation des Grecs tels que les reconstitue Vernant s'appuient sur la preuve du document circonstancié, sur sa cohérence interne et surtout sur ses relations avec d'autres documents de nature différente. Il s'est appliqué à mettre en relation des données précises, des éléments et des faits singuliers susceptibles de révéler des récurrences et des invariants. Loin d'en déduire un système, il s'intéresse cependant à la compréhension d'un fait dans sa globalité, celui de la représentation du divin et de ses conséquences sociales dans les communautés grecques, selon les principes de l'anthropomorphisme. Dès lors qu'il ne s'agit plus d'histoire événementielle, l'anthropologie historique de Vernant tend à mettre en évidence des couches plus profondes et donc plus stables, des phénomènes plus lents, qui en définitive couvrent la totalité de l'espace temporel délimité entre le 8e et le 3e siècle après Jésus-Christ. À dégager des structures, Vernant a livré une histoire ralentie, qui ressemble, dans la durée, à du synchronique. En cela, il est l'héritier, je crois, direct des conceptions de l'école des annales et de l'histoire sur la longue durée. Plus les perspectives prennent du recul, plus des stabilités apparaissent, plus émergent ces résistances au temps qui sont assimilables à des structures dans ces sociétés. Or, avec la rupture dans la représentation corporelle des dieux, on se heurte de manière inédite à la confrontation entre un événement et une structure. En faisant sienne la thèse d'un passage du symbole à l'image, Vernant se trouvait devant le problème qui s'est posé au structuralisme vis-à-vis de l'histoire. Un événement est historique, pour autant qu'il perturbe le système mis au jour. L'histoire, c'est le signe, justement, de ce déséquilibre. En revanche, lorsque les forces d'intégration l'emportent, alors l'histoire fait cohabiter les courants profonds et le clapotis de surface, sans que ce dernier ne vienne modifier les premiers. Pour Vernant, il ne fait pas de doute que le passage du symbole à l'image est un événement important, qui fait irruption dans le polythéisme grec et en modifie durablement les dispositifs de représentation. La preuve, c'est qu'après avoir mis au jour un modèle de fonctionnement pour l'époque archaïque, il s'est totalement désintéressé du problème aussitôt que ce modèle subit cette modification majeure. C'est exactement à ce point du raisonnement que se situe la limite, je crois, de la démonstration de Vernant. Car cette césure est loin d'être déclinée aujourd'hui par les archéologues et les historiens de la Grèce antique de manière aussi tranchée. Trois angles d'attaque ont en effet été retenus pour fortement atténuer l'idée qu'une rupture décisive avait eu lieu entre l'époque archaïque et l'époque classique dans la représentation des dieux. Pour autant, il n'est pas certain non plus que les thèses de Vernant aient à pâtir de ces révisions et de cette nouvelle manière de penser les transitions. Je m'explique. La première remise en cause est la plus célèbre et provient des contradictions mêmes que l'on observe à l'origine des thèses sur la césure entre les corps divins de l'époque archaïque et ceux de l'époque classique. On sait en effet que, selon Winckelmann, l'art classique est décrit comme un art de la perfection dans le rendu corporel et que l'avènement de cette perfection trouve ses racines dans le cadre historique bien déterminé, celui de la liberté individuelle. C'est le lien entre un naturalisme accompli et la démocratie athénienne vient immédiatement à l'esprit. Il n'est pas sûr que l'inventeur de l'histoire de l'art ait rabattu sur le plan strictement politique ce qu'il concevait plutôt comme une mentalité civique, un esprit égalitaire. Mais c'est bien pourtant de cette manière qu'à partir de l'auteur de la Geschichte der Kunst des Altertums, paru en 1764, l'association entre contexte politique et anthropomorphisme rigoureux du corps des dieux a fait florès. Pourtant, il n'était pas difficile d'en énoncer les approximations et les impossibilités, dès lors que l'on s'attachait de près aux documents archéologiques. La théorie de Winckelmann est élaborée à partir de l'Apollon du Belvédère ou du Laocoon, à une époque où les sculptures du Parthénon n'avaient pas pris la place qui leur revient. Or, l'Apollon ne date pas de l'époque triomphante de la démocratie athénienne, et le Laocoon, copie romaine d'un original hellénistique rhodien, n'a jamais été produit dans un contexte de liberté particulière. Ces contradictions, depuis longtemps dénoncées, n'ont pas empêché cependant que perdure l'idée d'un lien entre le miracle grec et l'avènement de la liberté politique, au point même que Gombrich, dans sa célèbre histoire de l'art, n'a pas jugé bon de remettre en cause ce postulat, alors même qu'il défendait par ailleurs l'idée, plus générale, que le naturalisme des Grecs provenait d'un désir fondamental de raconter des histoires, de les mettre en scène de manière narrative. Comme l'explication tirée des événements politiques ne semblait plus satisfaisante, plusieurs tentatives différentes ont été faites pour expliquer le triomphe des images sur les symboles. Certains, dans le sillage de la science allemande du XIXe siècle, ont préféré recourir au concept de génie individuel, celui de Phidias par exemple, et des autres grands sculpteurs de l'âge classique, quand d'autres encore faisaient appel à un génie collectif assimilable à un Zeitgeist, théorie pour le moins bien abstraite. La plus récente explication met en exergue l'influence du développement médical dans l'observation toujours plus rigoureuse et précise du fonctionnement corporel, comme la répartition des veines, les principes de la respiration, l'organisation asymétrique des gestes. Mais là encore, les sources ne corroborent aucunement ces reconstitutions. L'apparition des premières représentations sculptées, qui affichent un écho de ces connaissances médicales nouvelles, date de plus de 50 ans avant que les textes n'en fassent état, ce qui conduit, sans la moindre preuve, à supposer l'existence de connaissances médicales précises sur l'anatomie humaine plus d'un demi-siècle avant le corpus hippocratique. L'archéologie classique ne retient plus grand-chose de toutes ces théories politiques, philosophiques ou médicales. Elle a plutôt tendance, au contraire, à privilégier la longue durée pour rendre compte de l'aspect progressif des changements constatés. En fait, elle ne pense plus le passage des symboles aux images comme un événement, mais comme une transformation lente et profonde qui aurait travaillé les productions artisanales des sociétés grecques depuis leur apparition. Le développement d'un naturalisme cohérent n'est pas subit et circonstanciel, mais fonctionnerait plutôt comme un prolongement naturel d'un processus qui commence bien avant les premières réformes isonomiques de Clisthène et qui se poursuit bien après le IVe siècle et la fin de la démocratie triomphante. Il n'est qu'une étape dans les avatars de l'anthropomorphisme des dieux, au fondement même de la représentation du divin chez les Grecs. D'une certaine façon, l'archéologie classique, en dissipant le miracle grec et en s'attachant à diluer dans le temps long les évolutions lentes d'un processus figuratif, rejoint les interrogations de Vernant lui-même sur cet anthropomorphisme originel propre à la religion grecque, composante essentielle de son polythéisme. Mais ce n'est pas tout. Un deuxième angle d'attaque a permis d'interroger encore plus avant cette césure entre l'époque archaïque et l'époque classique, et a consisté à remettre en question la prétendue internationalisation des représentations divines à partir de l'âge classique. En effet, dans l'idée d'une évolution linéaire des formes plastiques en fonction d'un développement chronologique lui-même linéaire, on a pensé l'histoire des représentations figurées comme unifiée, se constituant au gré d'une progressive adéquation des statues au modèle humain. Une innovation dans le rendu de tel ou tel muscle, de tel ou tel mouvement, était supposée être aussitôt adaptée par les sculpteurs qui voyageaient et diffusaient ainsi leurs trouvailles techniques. L'accumulation de ces améliorations figuratives aurait trouvé à la fin du VIe siècle un rythme tout spécialement soutenu qui expliquerait le triomphe de la perfection classique. C'est ainsi que certains spécialistes de sculpture ont défendu la thèse d'un style international prédominant à partir de cette période, caractérisant toutes les productions ou du moins conduisant à les plier toutes à l'exigence des contraintes du naturalisme. Le triomphe de ce courant contraignant serait visible dans la style sévère, moment historique où triompherait une certaine unité dans les représentations. Le problème dans ce type d'approche est qu'on est en plein cercle vicieux. À définir un style comme un ensemble de caractères communs à des œuvres d'une même période, on finit par concevoir la chronologie comme seul pivot du raisonnement. Or, la chronologie, avant de fonder la définition d'un style, est elle-même assise sur une reconstitution de l'évolution des formes. On en vient à dater un style à partir d'un groupe de documents que l'on a préalablement daté en fonction de critères stylistiques. Heureusement, depuis les travaux fondateurs de Langlotz, à propos des styles statuaires de l'époque archaïque, où les différents centres de sculpture et les écoles, dans le cadre concret de leurs cités respectives, jouent cette fois-ci un rôle déterminant dans le choix des formes, les spécialistes ne se contentent plus d'une apparente unité et remettent en cause la définition traditionnelle d'un style d'une époque. Les productions de ce que, par convention, on appelle encore le style sévère, qui regroupe par commodité taxonomique l'ensemble des productions de la fin du VIe et de la première moitié du Ve siècle, présentent des disparités et des différences formelles que le temps n'explique pas, mais qui trouvent leurs origines dans les traditions développées par les centres de sculpture qui les ont fabriquées. Aujourd'hui, le style de Polyclète est moins conçu comme l'aboutissement d'un unique projet de sculpture qui aurait animé l'histoire de ses effigies d'un bout à l'autre, mais comme le résultat d'une convergence, celle d'une recherche mathématique dans l'élaboration du corps humain, formalisée par un canon, et celle d'une tradition venue des stylisations mises au point par les ateliers proprement argiens qui trouvent ses antécédents directs dans Cléobis Sibiton, voire dans une cuirasse du 8e siècle. Ainsi, lorsque l'on compare des sculptures du style sévère, on constate moins le triomphe d'un corps exactement reproduit que celui de la résistance des choix stylistiques tels que les pratiquent les grands centres de production statuaire. Devant l'Athéna du second fronton d'Égine, l'Oriche de Delphes ou la Corée 688 de l'Acropole, pour ne citer que d'autres exemples du style sévère, on ne mesure pas les étapes d'une évolution, mais bien les caractéristiques de trois styles qui persistent à afficher des différences formelles. De même, on a pu souligner le rôle déterminant des ateliers pariens dans les développements de certaines stylisations du style sévère. La conséquence de ces révisions sur les explications globales telles qu'elles étaient avancées à propos de la révolution naturaliste est très importante. Par cet enracinement des styles dans la tradition des cités et de leurs ateliers, les évolutions que l'on observe n'ont plus la brutalité d'un événement, mais chaque œuvre trouve son originalité dans le contexte historique spécifique qui l'a produite et la conditionne. Il n'y a pas d'histoire internationale des formes, il n'y a que des histoires localisées qui peuvent se croiser et se rencontrer, mais qui surtout présentent des discontinuités, des différences. La problématique des styles et la spatialisation de leurs origines ont brisé le chronologisme qui sous-tendait tout le raisonnement et qui rendent caduque toute reconstitution fondée sur une histoire continue faite d'accumulations successives et de ruptures révolutionnaires. Le troisième et dernier angle d'attaque pour remettre en question la prétendue césure entre les symboles et les images s'est porté de manière plus générale sur la dimension religieuse de ces images. En effet, de manière corrélative à l'idée d'un achèvement de la représentation naturaliste des dieux, s'est développée l'idée qu'avec l'âge classique était née une nouvelle conception de l'art, engageant à regarder le corps des dieux en tant qu'objet technique, en tant que produit fabriqué par les mains expertes de l'homme. Je cite Vernon. En clair, lorsque les spécialistes opposent le vieux Xoanon de l'Acropole et la Parthénos de Phidias, ils s'attachent à souligner la forte valeur cultuelle de la première statue, inversement proportionnelle à sa valeur esthétique, et au contraire, pour la seconde statue, ils en exaltent la dimension esthétique au détriment de sa fonction cultuelle. Vernon, en posant dans la citation que j'ai évoquée plus haut un lien de cause à effet entre l'avènement de l'image dans le temple et son désengagement du rituel, se situe pleinement finalement dans cette perspective et reprend du coup à son compte les oppositions radicales entre l'exoana ou les colossoïs d'une part, les figures divines ultérieures d'autre part. C'est pourtant à ce niveau que les archéologues décrochent aujourd'hui. Dans la mesure où ce ne sont que des préjugés, aucunement les documents sur la vie religieuse en Grèce qui permettent d'étayer une telle opposition entre les pieuses représentations de l'époque archaïque et les créations artistiques de l'âge classique. Préjugés, dis-je, car comment appeler autrement ce qui repose sur l'idée que la signification religieuse d'un objet contient plus d'intensité et d'authenticité quand cet objet est ancien que quand il est nouveau? Comment aussi appeler autrement l'idée que le sentiment religieux déclinerait à partir du 5e siècle? Les textes sur les statues de culte produites par Phidias ne vont pourtant aucunement en ce sens. Alors que l'on dénie à la Parthénos toute portée religieuse à côté du Xoanon protégé dans l'Arictaïon, les auteurs, et Strabon au 1er siècle, ainsi sur la puissance extraordinaire qui se dégage du Zeus d'Olympie, tout aussi colossal et tout aussi artistique que la Parthénos. En fait, en s'interrogeant sur le vocabulaire des statues de culte, ainsi que sur l'histoire de leur constitution, la recherche contemporaine a remis totalement en question ces a priori. On a cité tout à l'heure Alice Donohue, je voudrais la reciter ici, évidemment, dans son enquête sur la notion de Xoanon, elle a montré que bien des conceptions qui animaient ces constitutions, en particulier à propos des Xoana, mais aussi des statues de culte en général, reposaient sur des mirages tant archéologiques que littéraires. Elle a dénoncé le caractère éminemment moderne des dénominations et a souligné combien la catégorie des images cultuelles et leur histoire était construite intellectuellement par les chercheurs sur des anachronismes et des approximations. Ainsi, les études qui utilisent la notion d'image cultuelle ne reposent quasiment jamais sur les témoignages des monuments, la quasi-totalité ayant disparu, mais sur un petit groupe de textes anciens qui traitent des objets de culte de manière explicite. La majeure partie de ces textes appartient aux échanges entre juifs et chrétiens, notamment sur les critiques des images et sur le paganisme. Les images ont toutes été dévaluées, mises dans le même sac, qu'elles soient iconiques ou non, et condamnées comme relevant d'une pratique païenne par la littérature chrétienne. La relecture de ces textes, par un courant romantique hérité d'un certain protestantisme, dont on sait le penchant pour l'iconoclaste, définit un phénomène religieux authentique comme fondé sur des forces obscures, primitives. Cette manière de voir nous conduit à condamner la Parthénos comme inauthentique, parce qu'émanant de l'art, alors que le Xoanon d'Olivier, immémorial, tombé du ciel, nous semble renvoyer à une authenticité religieuse plus forte. Convaincu désormais que la ferveur religieuse vis-à-vis de ces représentations divines ne s'est jamais démentie avant comme après 500, les historiens formulent autrement la question sur les évolutions qui ont pu les affecter au cours de leur longue histoire. Ils intègrent ces évolutions dans un ensemble de principes qui régissent d'un bout à l'autre de cette histoire grecque les relations entre les communautés civiques et les statuts de Dieu, des dieux. Ces statuts marquent la présence au monde des dieux grecs. Elles expriment un pouvoir sacré particulier. Le contrôle physique de la statue équivaut au contrôle de ce pouvoir. Posséder une représentation culturelle du dieu, c'est avoir accès directement à un pouvoir sacré. Il existe une relation étroite entre la possession de la statue, le contrôle de sa valeur sacrée et l'autonomie de la communauté qui honore cette statue. Ce rapport quasi fétichiste à l'effigie divine, les Grecs l'ont éprouvé bien avant comme bien après le 5e siècle, et la qualité talismatique de ces effigies n'est pas restreinte au seul Xoana. Les auteurs de l'époque hellénistique et romaine rapportent que c'est Alcamène qui a façonné le premier Hécate triple face au 4e siècle, ou encore que c'est Boupalos, à l'époque archaïque, qui a taillé une Nike ailée pour la première fois. Ces représentations ne sont pas à l'époque classique comme aux époques antérieures, le résultat d'une fantaisie artistique. Il s'agit de la concrétisation visuelle reconnue comme la meilleure par les communautés qui les honorent. La célébrité d'un corps divin tel qu'il est figé dans sa statue provient moins de son degré de naturalisme aux yeux des Grecs que de sa capacité à servir de médiateur et d'incarnation périodique du pouvoir du dieu qui l'accueille. Finalement, la statue finit par être le dieu. Dans une fusion que traduit bien la langue grecque, qui désigne par le nom du dieu le dieu comme sa représentation, cette effigie incarne le dieu lui-même. Ainsi, à l'époque archaïque comme aux époques ultérieures, les statues des dieux ont toujours été perçues comme de beaux objets et ont toujours été regardées sur le plan esthétique. La grandeur, la beauté demeurent les principes de l'incarnation des dieux, et c'est ainsi que les hommes du polythéisme grec les perçoivent du 8e au 3e siècle après Jésus-Christ. Il s'ensuit de ce principe que l'accès à ces statues a toujours été organisé religieusement, régulé formellement, selon des normes et des actes rituels bien précis. Les statues divines ont été des instants privilégiés de rencontre avec le divin, et dans ce face-à-face est engagée une relation spécifique entre le dieu et l'homme. Et c'est à ce niveau que l'on perçoit les évolutions dans la représentation. Car pour exprimer cette grandeur et cette beauté, les Grecs n'ont pas utilisé les mêmes moyens à toutes les époques, n'ont pas utilisé le même vocabulaire à toutes les époques. Fondamentalement ancré dans l'anthropomorphisme, dès l'origine, la représentation des dieux a connu chez les Grecs des phases diversifiées, des moments où la copie scrupuleuse du corps humain et le recours à la représentation illusionniste du corps leur apparaissaient comme nécessaires pour rendre possible la communication entre les hommes et les dieux. Le naturalisme n'est pas un système absolu de la représentation des dieux. La documentation archéologique tend à montrer qu'au contraire, toutes les figures produites par l'artisanat grec n'ont pas pour objectif la représentation du corps humain naturel. En fait, ce naturalisme n'est qu'un mode conventionnel comme un autre pour figurer les dieux. Il est un code parmi d'autres pour entrer en contact avec les dieux. Si ce code devient dominant à partir de l'âge classique, c'est simplement parce qu'il est ressenti comme le mieux à même pour faire fonctionner la représentation divine. Au fond, le naturalisme n'a pas remplacé la valeur symbolique de l'effigie. Il lui a permis de remplir sa tâche avec des moyens différents. Contrairement à ce que pensait Vernant, l'histoire de la représentation des dieux n'est pas celle d'un changement de système, mais celle, à l'intérieur d'un même système, d'un changement de code pour faire fonctionner ce système. Du coup, aujourd'hui, on ne pense pas les transformations de la représentation comme le passage du symbole à l'image, ou plus exactement, comme une différenciation entre la religion et l'art, mais comme le passage d'une pensée symbolique à une autre, autrement dit comme le choix d'une nouvelle relation avec la statue, une relation plus inclusive, plus élaborée aussi. Plus que le passage du symbole à l'image, les historiens de l'art ne cessent de repérer les résistances du symbole dans l'image. Encore récemment, une étude a montré que la nudité de l'Aphrodite de Cnide, de Praxitèle, était bien moins l'aboutissement d'une recherche des faits réalistes que la résurgence par des canaux de transmission complexes et resémantisés par les Grecs de modèles iconographiques créés en Orient, et que cette nudité était bel et bien un objet construit, renouant avec les représentations de déesses nues dans un alphabet symbolique ressaisi par les Grecs. Au fond, ce qui a profondément changé, ce sont les moyens d'expression, mais aucunement les objectifs visés. Les évolutions de ces moyens d'expression, la lente affirmation d'une nouvelle relation entre le fidèle et le dieu statufié, n'ont jamais affecté les principes de fonctionnement que Vernant avait dégagés à propos de la représentation des dieux en Grèce ancienne. Ils correspondent au mieux à des adaptations mondaines, à des cadrages liés peut-être aux transformations politiques des cités grecques, mais il est certain qu'ils laissent intactes les structures du polythéisme grec. Ainsi, aujourd'hui, il n'y a plus de révolution grecque, plus de césure. Les évolutions constatées dans la documentation sculptée ont perdu la force d'un événement historique capable de perturber en profondeur les structures de fonctionnement de cette religion grecque. Contrairement à ce que pensait Vernant, ces évolutions sont pensées aujourd'hui comme des éléments externes qui ne perturbent en rien le système polythéiste. Si les moyens de communication entre les hommes et les statues ont changé, ce n'est pas sous le coup de brutales révolutions. Les forces d'intégration du polythéisme grec l'ont emporté, et de ce point de vue, il n'y a qu'une histoire lente, très lente, qui encore une fois confine au système. Le symbolisme des représentations divines a continué, par d'autres stratégies, à maintenir l'ambiguïté fondamentale de la figure divine en Grèce ancienne. D'une certaine façon, les conclusions dégagées par Vernant à propos du corps des dieux dans son article de 86 s'en trouvent renforcées. Loin d'être confinées dans la seule époque archaïque, elles ont en effet été testées et étendues aux époques ultérieures. Simplement, ce que Vernant déclinait sous l'angle d'une histoire, nous avons tendance à l'assimiler à une structure de la Grèce ancienne. Nous avons donc retenu, et seulement elle, la leçon de Vernant que je rappelais au début de ma communication. Le corps ambigu des dieux est un système qui a fonctionné d'un bout à l'autre de cette Grèce et de son histoire, thèse qui montre, je crois, combien nos recherches sont profondément conditionnées par le modèle intelligible dégagé par Vernant sur le corps des dieux. Oui, vraiment, il est difficile de se déprendre de l'œuvre de Vernant. On y revient toujours. Et partant, il est difficile, je crois, de relire ce qu'hier, l'un d'entre nous a appelé le legs structurant de Vernant dans nos études, et en particulier sur les représentations des dieux. Mais après tout, jusqu'à maintenant, personne n'a trouvé à s'en plaindre, pas même, au bout du compte, les spécialistes de sculpture. Et je parie que ça va durer encore quelques temps. Je vous remercie beaucoup.